7h, bonjour à tous et bienvenue sur France Inter. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
Édition spéciale consacrée à Notre-Dame de Paris. Le jour est en train de se lever sur la cathédrale, en partie ravagée par les flammes. Terrible incendie qui s'est déclenché hier en fin de journée dans une partie du toit en travaux. La flèche s'est effondrée. Les dégâts sont encore difficiles à évaluer. L'émotion est immense dans le monde entier. Nous serons en direct sur place dans quelques instants, sur le parvis de Notre-Dame dès le début de ce journal. Édition spéciale donc jusqu'à 9h, à 7h50. Bonjour Alexandra Ben Saïd.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
Votre invité ce matin.
C'est le ministre de la Culture. Quels sont les trésors de Notre-Dame qui ont pu être sauvés, ceux qui ont été perdus? Sur quelle base démarre l'enquête? Et maintenant, rebâtir, oui, mais comment? Toutes les réponses de Franck Riester, ce sera avec nous en direct à 7h50.
Et à partir de 8h20, la maire de Paris, Anne Hidalgo, au micro de France Inter, Monseigneur Patrick Chauvet, qui est le recteur archiprêtre de Notre-Dame de Paris, sera également avec nous en studio. Nous serons en ligne avec Stéphane Bern, avec l'architecte Christian de Port-en-Part et le médiéviste Michel Zinc. Pour finir, Guillaume Gallienne viendra nous lire un extrait de ce grand texte de Victor Hugo qui est Notre-Dame de Paris. Si vous souhaitez intervenir, le standard est ouvert, 01 45 24 7000.
France Inter.
Cette cathédrale, nous la rebâtirons. Tous ensemble. Et c'est sans doute une part du destin français. Et le projet que nous aurons pour les années à venir. Mais je m'y engage. Dès demain, une souscription nationale sera lancée. Et bien au-delà de nos frontières. Nous ferons appel aux plus grands talents. Et ils sont nombreux qui viendront y contribuer. Et nous rebâtirons. Nous rebâtirons Notre-Dame. Parce que c'est ce que les Français attendent. Parce que c'est ce que notre histoire mérite. Parce que c'est notre destin profond.
Les mots et l'émotion d'Emmanuel Macron hier soir sur le parvis de Notre-Dame. Le chef de l'État s'est rendu à deux reprises sur l'île de la Cité pour suivre au plus près l'évolution de la situation. Les premières flammes ont donc été aperçues un peu avant 19h sous la flèche dans une zone actuellement en travaux. L'édifice où une messe était en train d'être célébrée a été évacuée. 1500 personnes évacuées en 2-3 minutes. A alors commencé une lutte terrible contre les flammes qui se sont rapidement propagées à la charpente de la cathédrale, baptisée la forêt à raison d'un incroyable enchevêtrement de poutres. Bonjour Julie Pietri.
Bonjour.
Vous êtes sur le parvis de Notre-Dame ce matin, avec toujours sur place des dizaines de pompiers présents.
Et sans ces camions de pompiers, elle ferait presque illusion de face Notre-Dame ce matin. La façade reste claire, elle n'est pas noircie, les murs ont tenu, les tours aussi, les pompiers les inspectent d'ailleurs encore en ce moment avec des lampes torches. Mais à l'intérieur, c'est autre chose, raconte le vicaire général Philippe Marsay.
Alors en fait, hier soir, j'ai eu la possibilité avec un pompier de rentrer au seuil de la cathédrale. À l'intérieur, donc, tout est noir, tout est brûlé, tout est consumé. En plus, ce qui est très impressionnant, c'est que le plafond, le toit de zinc qui est au-dessus, il a donc fondu petit à petit et on a des flamèches qui tombent par terre. Les tableaux, les lustres, tout est brûlé, tout est consumé. Mais je ne sais pas, il n'y a personne encore de compétent qui rentrait encore dans l'église. C'est un lieu sécurisé aujourd'hui.
Le plafond de bois surnommé la forêt, vous l'avez dit, a brûlé. La flèche de plus de 90 mètres de haut s'est effondrée et personne ne sait ce matin si l'orgue aux 8000 tuyaux, cet orgue monumental, est intact. Certains passants se promènent en ce moment autour de la cathédrale à l'extérieur du périmètre sécurisé. Certains s'arrêtent et d'autres, comme Jackie, sont arrivés dès hier soir et ne sont plus rentrés chez eux depuis.
Je suis resté dehors toute la nuit, j'ai fait différents points, j'ai avancé au fur et à mesure que les policiers nous ont laissé le passage, observer, voir, et puis accompagner Notre-Dame dans sa détresse, pour cette nuit toujours, voilà.
Comment vous la trouvez cette dame ce matin?
Écoutez, elle se réveille, elle est bien malade, elle est bien blessée, il faut absolument la reconstruire, qu'elle revive.
Qu'elle revive aussi par ses activités très touristiques. Notre-Dame accueillait encore jusqu'à 5 offices par jour et bien des baptêmes, bien des messes étaient prévues pour cette semaine sainte.
Merci Julie Pietri. En direct de la cathédrale Notre-Dame avec Sandrine Malon pour les moyens techniques. Beaucoup d'incertitudes encore ce matin. C'est au milieu de la nuit que le feu a enfin été maîtrisé. Maîtrisé mais pas totalement éteint comme le précise il y a quelques minutes Laurent Nunez, le secrétaire d'État auprès du ministère de l'Intérieur.
Oui, il est maîtrisé, il n'est pas totalement éteint. Il y a encore quelques foyers, d'où le refroidissement qui est encore en cours. Il y a eu de nouveau des départs cette nuit qui ont tout de suite été maîtrisés. Mais oui, le feu est éteint, le péril feu est écarté. Encore une fois, maintenant, c'est la structure bâtimentaire qui interroge et qui doit être expertisée. On a toujours été très prudent. La structure, bien sûr, est sauvée, mais on reste prudent. Il y a des expertises à faire. Un incendie de cette ampleur-là, ça a un impact important sur les structures. Donc, il faut pouvoir s'assurer qu'elles sont toujours stable et déjà dans un premier temps pour permettre à nos hommes, aux hommes de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, de pouvoir de nouveau pénétrer à l'intérieur. Ils l'ont fait cette nuit avec beaucoup de courage dans les tours pour pouvoir attaquer le sinistre de l'intérieur pour éviter justement qu'elle ne s'effondre. Et sans cette action menée au péril de leur vie, sans doute se serait-elle effondrée.
Et au plus fort de l'incendie, comme le disait Laurent Nunez, 400 pompiers ont été mobilisés, certains juchés sur des bras mécaniques à des dizaines de mètres de hauteur. Une lutte extrêmement difficile en raison de la hauteur de l'édifice. Le recours au Canadair a été rapidement écarté en raison des risques d'effondrement. Laurent Vibert est l'ancien porte-parole des pompiers de Paris. Il explique la complexité de cette intervention.
Cet incendie, il est très difficile, très complexe à gérer, vous l'avez vu. J'étais moi-même, vous l'avez rappelé, 25 ans pompier de Paris. J'ai escaladé cet édifice, cette cathédrale, on la connaît par cœur, mais vu la force des flammes et le feu de toiture, c'est pas la même chose que de gérer une intervention qui se déroule dans la nef à rez-de-chaussée. Donc ça, il faut bien que les gens se rendent compte et que on est, et les pompiers de Paris sont bien sûr très déçus de ne pas pouvoir avoir une action beaucoup plus efficace sur le feu, mais c'est comme ça. C'est la structure qui commande et on fait le maximum, ils le font. Il y a des pompiers qui ont été blessés, pour certains légers, mais il y a des coups de chaleur, des coups de fatigue. C'est un vrai four à l'intérieur, il faut s'en rendre compte, c'est quelque chose de très complexe. C'est une intervention majeure sur un édifice majeur et cette conjugaison fait qu'on a ces images-là et cette torpeur qui nous prend.
Et hier soir, un pompier a été sérieusement blessé lors de l'intervention. Alors le moment le plus spectaculaire s'est produit à 19h57 lorsque la flèche haute de 96 mètres construite par Viollet-le-Duc s'est effondrée. Scène incroyable, spectaculaire, qui a secoué les centaines de personnes venues assister impuissantes aux ravages du feu. Mathilde Dehémy aussi était sur place, reportage.
Une clameur. La foule saisit d'effroi quand la flèche dévorée par les flammes s'effondre. Sacha tremble tellement qu'elle cherche ses mots.
J'ai hurlé en fait quand on a vu la tour. Je sais pas, j'étais heureusement de pas être plus près que ça parce que on a vraiment vu la tour complètement s'effondrer devant nos yeux. Je pense que c'est un moment assez fort. J'espère juste que ça va être réparable.
Spontanément, la jeune fille serre une inconnue en larmes dans ses bras.
On a vu cette tour en fait vraiment tomber. Je l'ai vu pleurer. Moi, je me suis mis à crier et je lui ai tendu les bras, elle est dans mes bras et du coup, on est resté un moment dans les bras. Juste.
Autour d'elle, les gens pleurent. D'autres regardent l'immense nuage de fumée qui comble le vide laissé par la flèche. L'incendie redouble d'intensité. Robin tient à saluer les pompiers.
Les pompiers ont eu du mal à intervenir. Il y en a beaucoup qui ont pris des risques. Ils étaient postés à des positions très sensibles. Les lances étaient dans un premier temps trop courtes. C'était malheureusement trop tard. L'effondrement d'un premier temps de la nef arrière, puis ensuite de la grande flèche, qui a été un peu le moment crucial.
Sans sa flèche, Notre-Dame de Paris est défigurée. Parisiens et touristes partagent l'espoir de l'avoir reconstruite un jour.
Un reportage de Mathilde Dehémy. Alors comment le feu s'est-il déclenché? C'est la question qui se pose ce matin. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour destruction involontaire par incendie. La piste privilégiée est celle d'un départ de feu accidentel sur le chantier. Les enquêteurs ont commencé à interroger les ouvriers dès cette nuit. Selon l'architecte en chef chargé des travaux à Notre-Dame, il n'y avait plus d'ouvriers sur place lorsque l'incendie s'est déclenché. Entre effroi et fascination, sur place et dans le monde entier, des millions de personnes ont regardé en boucle les images de ces flammes dévorant l'histoire de France. La cathédrale Notre-Dame, construite il y a 850 ans, est classée au patrimoine mondial de l'humanité. Donald Trump a été le premier chef d'État à réagir, évoquant l'un des grands trésors du monde. Incrédulité et tristesse du côté du Vatican en cette période de Semaine Sainte pour les catholiques. Même émotion, même solidarité de Berlin à Londres, de Jérusalem à Istanbul, de Rio de Janeiro au Caire. Moment d'unité politique en France où la campagne pour les Européennes a marqué une pause. Chacun, chacune a son histoire avec Notre-Dame. Une histoire particulièrement émouvante pour Esther Benbassa, sénatrice Europe Écologie Les Verts.
Je suis très touchée parce que c'est un peu mon enfance. Notre-Dame, c'était le symbole. Moi, je suis née en Orient, j'ai appris le français vers 5 ans. Et après, on lisait à l'école des sœurs, on lisait des passages. Et moi, à mon tour, je suis devenue professeure de français et de littérature française dans ma prime jeunesse. Et j'ai enseigné ça à des centaines d'élèves. Aujourd'hui, j'ai perdu une partie de mon enfance. Je rêvais avec Esmeralda, dansant sur le parvis, Quasimodo amoureux d'Esmeralda. Et c'était Paris, c'était ça.
La sénatrice Esther Benbassa. Nous rebâtirons Notre-Dame, a donc dit hier soir Emmanuel Macron. Une souscription nationale est lancée. L'ancien ministre de la Culture Jean-Jacques Ayagon propose de classer Notre-Dame trésor national pour favoriser les dons de mécénat avec une réduction d'impôt de 90%. Dans la nuit, la famille Pinault a d'ores et déjà annoncé un don de 100 millions d'euros pour rebâtir la cathédrale. Nous reviendrons bien sûr tout au long de cette matinale sur cet incendie et un dossier complet est à retrouver sur franceinter.fr.
Il est 7h11, Agnès, le reste de l'actualité.
Et rappelons d'abord le report de l'intervention du chef de l'État qui devait donc prendre la parole hier soir à 20h pour annoncer des mesures concrètes après le grand débat. Une annonce annulée en raison de l'incendie à Notre-Dame et reportée sine die. Dans le contexte actuel de réforme des retraites, l'enquête annuelle réalisée par le Cercle de l'épargne sur les Français et la retraite était particulièrement attendue. France Inter vous en révèle les conclusions ce matin et Laurent Kramer, les Français visiblement préfèrent travailler moins longtemps quitte à toucher une pension plus faible.
Si les Français plébiscitent à plus de 80% le principe d'une grande réforme des retraites vers un système universel par points, cette enquête souligne dans le même temps que les Français n'ont pas de réelle confiance dans le gouvernement pour mettre sur pied un nouveau système de retraite plus équitable, souligne Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'épargne.
Le sentiment de défiance qui traverse l'ensemble du pays se manifeste dans l'enquête. Les Français sont favorables à cette réforme car ils souhaitent plus d'équité au moment de la retraite. Mais ils ne sont que 34% à considérer que le projet de régime universel de retraite vise réellement à aller vers plus d'équité. Donc c'est une défiance assez forte vis-à-vis de l'État.
Interrogés sur l'idée de travailler plus longtemps pour bonifier leur retraite, les Français affichent un raisonnement inverse. Mieux vaut partir le plus tôt possible, quitte à raboter sa retraite.
Les Français ne sont pas favorables à l'idée de travailler plus longtemps, même pour améliorer leur niveau de pension. Les Français sont très attachés à la retraite à 62 ans, voire il y a une partie non négligeable qui souhaite le retour de la retraite à 60 ans. Donc travailler même à temps partiel ou en cumul emploi plus longtemps pour gagner un peu plus de pension, les Français y sont opposés.
Des Français pessimistes pour les trois quarts d'entre eux sur le montant de leur future pension et qui souhaitent voir les partenaires sociaux gérer leur retraite plutôt que l'État.
Et l'enquête est aussi à retrouver en détail sur franceinter.fr. Début aujourd'hui des réquisitoires au procès en appel d'Abdelkader Merah, frère aîné du tueur de Toulouse et Montauban, avec au cœur des débats la question de la complicité. Enfin, l'ONG Génération Future publie ce matin une carte de France des rivières, des lacs et des plans d'eau les plus pollués par les pesticides, avec donc la possibilité de connaître département par département la présence de ces pesticides suspectés d'être des perturbateurs endocriniens. L'ONG a ainsi passé au peigne fin les données publiées par les agences de l'eau et il en ressort, s'il y acquirait, d'importantes inégalités territoriales.
C'est en Corse du Sud qu'il y a le moins de substances actives de pesticides dans les eaux. Génération Future en a détecté seulement 4 contre 90 dans le Calvados. Parmi les départements les plus concernés, il y a également la Manche et la Seine-Maritime. Alors que les eaux de la Creuse et de la Lozère semblent relativement épargnées, Génération Future publie également une carte spécifique sur le glyphosate, substance herbicide très décriée. Et l'association livre un palmarès un peu différent. Dans le Nord et le Pas-de-Calais, les traces sont très fréquentes. 160 résultats positifs sur 180 analyses, par exemple, dans le Nord. Et à l'opposé, ce sont les eaux de la Creuse ou de la Corrèze qui sont les moins exposées. Dans ce département, seuls 7 tests sur 200 étaient positifs. Enfin, l'association de défense de l'environnement s'étonne de retrouver dans les rivières ou les plans d'eau des traces de perturbateurs endocriniens interdits depuis plusieurs années. Par exemple, des dérivés d'atrazine ont été retrouvés dans certaines analyses. Cette substance utilisée dans certains pesticides est pourtant interdite depuis 2003.
Voilà, un 7-9 spécial évidemment ce matin. Nicolas consacré une grande partie à l'incendie qui a ravagé une partie de Notre-Dame de Paris hier soir. L'incendie, rappelons-le, à présent maîtrisé mais pas totalement éteint et toujours beaucoup de questions sur la solidité de la structure du bâtiment. Nous y reviendrons notamment dans le journal de 7h30.
Merci Agnès Soubiran.